kid. Sanguí, sanguí, il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer.
Salut à tous, je suis Eman Capo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce podcast. Et sur cette section, voilà, donc notre podcast c'est The Mano Show. 15e épisode du genre sur la ligne du succès. Alors, ne m'en voulez pas si vous n'aimez pas la rumba, mais j'adore la rumba et j'ai... Je suis très inspiré quand j'écoute le grand Cimarron de Tumba qui ici est interprété par Mandilo System de TP Tout Puissant OK Jazz. Alors, sur la ligne du succès dans des Mano Show aujourd'hui, nous allons parler de 12 astuces pour passer des semaines très, très, très productives. Comme j'ai l'habitude de dire à mes amis, mes semaines sont sacrées pour moi. Et j'ai la chance et l'honneur d'avoir pour ce numéro de Mano Show un très grand ami, Patrice Bleuet. Salut Patrice, comment tu vas?
Ça va très bien, bonsoir Amand, bonsoir à tous.
Voilà, c'était un plaisir, c'est la toute première fois que tu es sur le podcast.
Ouais.
Et on va prendre beaucoup de plaisir ensemble, nous serons souvent ensemble pour vous, pour ces podcasts-là. Alors chers amis, aujourd'hui donc nous allons parler de comment faire pour passer des semaines super productives. Alors je voulais dans un premier temps... souligner quelque chose de très important. Il y a des gens qui vous diront, bah, tiens, la vie, ce n'est pas que le travail. Bon, d'accord, la vie, ce n'est pas que le travail. Nous ne parlons pas ici des gens qui n'ont pas besoin de travailler, qui sont chez eux, qui n'ont pas de défis, qui n'ont pas d'objectifs à atteindre semaine après semaine, qui n'ont pas de réalisation, des caps, des indicateurs de performance hebdomadaires, mensuels, semestriels, qui se doivent de travailler à atteindre. Nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de ceux qui ont des engagements, ceux qui sont des entrepreneurs, ceux qui sont des cadres d'entreprise, ceux qui pilotent des projets, ceux qui ont des responsabilités familiales et qui doivent absolument amener leurs enfants en vacances et pour pouvoir le faire, doivent s'assurer de ce que pendant qu'ils travaillent, ils travaillent vraiment. Donc, si vous faites partie de ceux-là et que vous voulez absolument produire du résultat, Patrice et moi, on est très heureux de partager avec vous 12 grosses astuces pour passer des semaines super productive. Alors, Patrice, l'une des questions que on peut se poser, mais est-ce que on est obligé de passer des semaines productives? Est-ce qu'il faudra pas juste se concentrer à passer des journées productives? Et la question, elle est là.
Non, effectivement, c'est une question très, très, très importante et on a besoin de traiter la question pour permettre à tout le monde d'être très, très, très efficace dans ces semaines.
Magnifique. Et pourquoi est-ce qu'on va se concentrer sur les semaines? C'est parce que la division du travail et la capacité à diviser le travail en des séquences facilement manageables, facilement ingurgitables, est quelque chose de très important. Et si vous prenez l'année compte 52 semaines, on va dire 50 pour la semaine de travail, les semaines de travail réellement, les semaines de travail, comme le diraient les spécialistes. Ouais. Donc 50 semaines. Et donc si je commence à dire, ok, je vais faire 50 millions pour cette année, 50 millions de francs, c'est pas en profit net. Je vais faire 500 millions de chiffres d'affaires. Ça veut dire, ok, chaque semaine doit faire 10 millions de chiffres d'affaires. Et la question à ressortir, c'est de savoir comment je m'assure de ce que chaque semaine, effectivement, arrive à faire 10 millions. Supposons que j'ai un projet qui est composé de 50 tâches, 50 grosses actions qui doivent être menées pour que ce projet arrive à terme à la fin de l'année. Je dois me demander clairement comment est-ce que je m'assure de ce que le 1/50 de ce projet soit absolument exécuté chaque semaine. C'est bien de cela qu'il s'agit, Patrice.
Exactement, c'est bien de cela. Il faut bien entendu organiser son temps, organiser son activité de sorte à être efficace. On le dit toujours, il faut organiser ses activités dans de petits temps de sorte à être efficace à la fin de tout le projet en question.
Ok. Et la première suite, Patrice, c'est d'affecter 3 grosses tâches essentielles par semaine. Parce que on ne peut pas tout faire.
Exactement, on ne peut pas tout faire. Il faut se concentrer sur les tâches les plus importantes.
Absolument. Et s'assurer de ce qu'on relie chaque tâche. Et les grosses tâches qui ont été identifiées, on va les relier à des objectifs qu'on s'attend à atteindre avant la fin de la semaine,
ouais.
À des objectifs qu'on s'attend à atteindre avant la fin du mois, à des objectifs qu'on s'attend à atteindre au bout de l'année, au bout des 50 semaines de l'année. Et l'une des choses qui nous arrive souvent, Patrick, c'est que nous ne connectons pas l'activité hebdomadaire avec les espérances de résultats à la fin de l'année, avec les espérances de résultats à la fin du trimestre. Et on suit un projet qui doit durer 90 jours, c'est-à-dire 12 semaines, et on oublie de saucissonner ce projet en deux tâches clés qu'on va systématiquement exécuter chaque semaine pour être sûr de ce que, à la fin des 12 semaines, c'est-à-dire des 3 mois, des 90 jours, on va y arriver effectivement.
Ouais, exactement, il faut l'organiser de cette manière parce que c'est plus facile de réaliser de petits objectifs que de gros objectifs quand on se dit attention, il y a beaucoup de choses à faire. Mais lorsqu'on se dit attention, il faut organiser ces grandes tâches en de toutes petites, on se concentre plus, on est plus efficace.
Magnifique. Supposons par exemple que vous êtes dans le département marketing d'une entreprise et que vous avez 3 mois pour lancer un projet, vous avez 6 mois pour lancer un projet. L'objectif ici, c'est de dire, OK, combien de tâches, grosses tâches, il me faut pour pouvoir exécuter ce projet. Alors, à la fin de ce podcast, nous mettons à votre disposition une fiche qu'on appelle la fiche RMPI, qui vous permet de prendre un projet et de dire, OK, quel est le résultat que je veux obtenir? C'est le R. Quelle est ma motivation pour atteindre, pour réaliser ce niveau de résultat? Et quelles sont les 12 actions essentielles que je vais absolument engager pour m'assurer de ce que, ben voilà, je vais atteindre, réaliser du moins les résultats attendus, les objectifs affectés à ce projet. Du coup, quelqu'un peut dire, OK, je pilote 3 projets ou 5 projets par trimestre. Donc, 12 semaines pour piloter un projet. Et par projet, j'identifie 12 actions que je vais engager chacune des 12 semaines. Et donc, si vous prenez de grosses actions que vous repartez, vous me dites, OK, chaque semaine, une action, j'ai prévu pour exécuter ce projet, pour atteindre cet objectif, au bout de 90 jours, au bout de 3 mois, au bout de 12 semaines, je veux 12 actions. Chaque semaine, son action. Chaque semaine, son niveau et son pourcentage de résultats. Et là, on peut être sûr de s'arrêter pour évaluer à chaque fois, pour voir est-ce que chaque semaine est en train de jouer sa part.
Exactement. L'une des difficultés que rencontrent les personnes en entreprise et même dans la vie, c'est qu'elles veulent tout faire en même temps. Et quand on
Absolument.
veut tout faire en même temps, finalement, on ne voit plus rien. Oui. Ce
Exactement.
qu'il faut faire, c'est de faire de petits pas et un petit pas par jour, un petit pas par jour. À la fin de 3 mois, on se dit, oh, voici tout le parcours qu'on a fait. C'est très, très, très important de procéder de cette manière.
Magnifique. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de piloter plusieurs projets à la fois, dites, OK, consacrez, vous dites, pour ce trimestre, je prends 3 projets essentiels qui, lorsqu'ils seront exécutés, me permettront d'atteindre les objectifs de mon trimestre ou d'atteindre un certain pourcentage, excusez-moi, de mes objectifs semestriels ou annuels. Et à partir de cet instant, si vous affectez 3 projets, pour chaque projet, il y a 12 grosses actions pendant 12 semaines. Ça fait une action par projet par semaine et 3 grosses actions pour les 3 projets. Ainsi, vous pouvez être sûr de faire un pilotage intégré. Patrice, l'autre chose, c'est de fixer 3 à 5 indicateurs de performance par semaine. Vous dites, voici quel est le niveau de résultat que je dois atteindre. Parce que sans ça, on ne peut pas produire des niveaux de résultat extraordinaires.
Mais on ne peut pas. En toute chose, vous devez vous fixer des objectifs et surtout les objectifs avec des indicateurs de performance. Quelqu'un dit, voici ce que je veux atteindre, voici ce que je veux réaliser. La question, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez exactement atteint l'objectif fixé? Et
Absolument.
voilà, les indicateurs.
À quoi ressembleraient les résultats si les
Exactement.
objectifs sont... Par exemple, je donne le cas des équipes commerciales à HEC, dont nous avons 3 indicateurs essentiels, par exemple, pour une semaine. C'est un, le nombre de rendez-vous qu'on a fait par jour. Et le nombre de rendez-vous par jour, c'est 3. 3 multiplié par 5, c'est 15 rendez-vous par semaine. C'est le premier indicateur de performance. Le deuxième indicateur de performance, c'est le nombre de contrats de coaching qu'on signe par semaine. En général, nous disons, on doit signer un contrat de coaching par jour, ça fait 5 contrats de coaching par semaine. Et l'autre indicateur que nous voyons, c'est combien de rendez-vous VIP on fait pour pouvoir conclure des contrats avec de grosses entreprises ou combien de livres on a vendu par semaine. Donc, nous avons des indicateurs et c'est ça qui nous permet de savoir est-ce que la semaine a été productive ou non. Et quand la fin de la semaine arrive, pour évaluer, on dit, OK, on avait prévu 15 rendez-vous convertis en 5 contrats, où est-ce qu'on en est? On avait prévu tel nombre de livres à vendre, où est-ce qu'on en est? Le fait d'avoir des indicateurs de performance permet de s'arrêter, Patrice, lors de la réunion hebdomadaire pour savoir est-ce que nous avons fait ce que nous avons prévu de faire. Sans cette vérification systématique, on passe de semaine en semaine sans véritablement progresser.
Et puis, pour avoir une bonne visibilité sur les indicateurs de performance, c'est donner des chiffres, des indicateurs chiffrés. Si vous dites, par exemple, cette semaine, il faut que je rencontre des clients. Oh, c'est vague. On peut
Exactement.
rencontrer deux, trois
Combien de
clients.
clients?
Combien de clients? Il faut le dire. 50 clients. Ou alors, on pourrait même utiliser un pourcentage. On dira, par exemple, il nous faut 50% des clients visités sur la liste que nous avons. Alors,
Absolument.
En ce moment-là, c'est chiffré et vous êtes sûr de faire votre évaluation, une évaluation efficace et pertinente à la fin de la période, de la journée.
Absolument. Et cette capacité à chiffrer pour pouvoir mesurer après est très importante parce que Peter Drucker dit si vous pouvez le mesurer, vous pouvez le manager. Voilà, troisième astuce, c'est de créer des routines quotidiennes pour atteindre les indicateurs de la semaine. Bon, une chose est dit, bon, tiens, à la fin de la semaine, on doit faire 15 rendez-vous, mais qu'est-ce que nous faisons par jour pour être sûr que nous ferons les 15 rendez-vous au bout de la semaine?
Exactement.
À quelle heure je fais mes rendez-vous? À quelle heure je passe mes coups de fil? À quelle heure je prends l'information? À quelle heure je fais les rapports? À quelle heure je fais de la planification? Quel est le bloc de temps que je vais consacrer, par exemple, pour travailler sur un projet? Si, par exemple, j'ai trois grosses actions à engager par semaine, je dis, OK, le lundi est ma journée d'action majeure. Je dis, OK, je vais identifier trois blocs de 90 minutes, 1h30, où je travaille systématiquement sur chacune des trois actions prévues pour la semaine, chacun des trois projets sur lesquels je suis en train de travailler. Mmh. Et quand on n'a pas créé ces routines-là pour savoir quels sont mes blocs de temps, les journées vont passer et se ressembler. Et à la fin des journées, à la fin du semestre, à la fin de la semaine, on n'a pas du tout progressé. C'est la capacité à systématiser des blocs de temps. Il y a des capacités à dire, OK, c'est ce projet, je travaille là-dessus de 9h à midi rigoureusement, de 6h30 à 9h30 rigoureusement. Je travaille là-dessus de 19h30 à 21h, 22h30 rigoureusement, en fonction de quelles sont mes heures d'efficacité et d'efficience, de productivité élevée. C'est ça qui me permet de dire, OK, je sais systématiquement qu'est-ce que je dois faire. Quand on parle de routine, c'est que ça doit être systématique.
Ouais.
Comme on dit à HEC, c'est bien de faire les choses de temps en temps, mais c'est mieux de les faire systématiquement.
Exactement. Vous savez, il y a des habitudes qui vous conduisent sur un chemin et vous conduisent à une destination.
Absolument.
Vous ne pouvez pas espérer ne pas organiser vos activités et après, à la fin de la période, espérer avoir des résultats.
Exactement.
Il y a, pour des résultats, un comportement que vous devez avoir. Et l'un des comportements importants, justement, pour avoir des résultats, c'est de systématiser. Et c'est de vous donner des objectifs, on l'a dit, mais aussi d'avoir l'attitude qui correspond aux résultats que vous recherchez.
Absolument. Et je donne un exemple pratique. Par exemple, il fut un moment où nous, à HEC, on n'avait pas développé la systématisation de la publication des posts sur les réseaux sociaux. Mmh. Et à partir du moment où on s'est dit, OK, c'est trois articles publiés par jour et on doit les systématiquement les partager sur les réseaux sociaux, le nombre de j'aime a augmenté, le nombre de visiteurs a augmenté, naturellement, le nombre de personnes qui sont fans de nous a augmenté et le nombre de gens qui décident d'acheter chez nous a augmenté. Ce sont les actions systématisées qui permettent d'aboutir à des résultats systématisés. Alors, Patrice, il y a une chose, peut-être les gens qui adorent la grasse matinée le samedi matin ou ceux qui vont fêter en général le vendredi soir, ils ne seront pas d'accord, mais pour passer une semaine productive, il faut démarrer sa semaine le samedi.
Oui, il faut prévoir le samedi. Et je connais un homme très sage qui me disait un jour, ma journée, je la prépare la veille. Je ne peux pas la veille.
Mais naturellement, mais il faut préparer sa journée la veille. Parce que,
bien sûr.
Il faut, comme le dit Jim Rohn, il faut terminer sa journée avant de la commencer.
Bien sûr.
La terminer sur papier. Oui, vas-y, Patrice.
Ah ouais, donc, il faut préparer la veille. Donc, on ne peut pas commencer un lundi. On organise sa journée le lundi. C'est
impossible.
Il faut prévoir longtemps en avance. On est sûr de réussir. Et quelqu'un disait, c'est un sage également. J'aime bien cette citation. Il dit que le meilleur secret pour réussir, c'est la préparation.
Absolument. Alors, le meilleur secret pour réussir, c'est la préparation. Si je veux que ma semaine soit productive, ce n'est pas le lundi que je dois collecter l'information.
Ouais.
Si je veux que ma semaine soit productive, ce n'est pas le lundi que je vais me former. Si je veux que ma semaine soit productive, c'est pas le lundi que je vais planifier. Si je veux que ma semaine soit productive, c'est pas le lundi que je vais me préparer. C'est le samedi que je m'assieds pour visualiser de loin ma semaine. Il y a des gens qui considèrent la semaine à partir du dimanche. Ils disent c'est le premier jour de la semaine. Je visualise ma semaine. Je vois les détails. Je vois quelles informations me manquent. Je cherche les informations. Je passe des coups de fil très rapidement. Et quand je démarre ma semaine, le samedi, je prends de l'avance sur ma semaine.
Exactement.
Et il n'y a rien de plus beau que d'avoir de l'avance sur sa semaine.
C'est cela. Et puis quand on prévoit, on se dit déjà, voici la charge de travail que j'aurai. Du coup, on se prépare émotionnellement et mentalement à traiter toute la charge de travail qu'on aura. Mais quand on n'est pas préparé et que le lundi, on fait le point et qu'on se rend compte, on se dit, waouh, voici tout ce que j'ai à faire. Mentalement, on est déjà épuisé parce qu'on se dit, waouh, j'ai beaucoup de trucs, beaucoup de choses à faire. Donc, préparer votre semaine à l'avance, le samedi, ça vous permet d'être plus efficace et d'entrer dans cette semaine avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dynamisme.
Magnifique. Et avant de passer à la cinquième astuce, il y a quelque chose de très, très important, c'est que beaucoup de gens se plaignent du fait que quand ils sont au boulot, il y a trop d'urgences qui viennent les solliciter. Mais Patrice, j'ai remarqué quelque chose de très important, c'est que entre 6h30 et 9h30, il n'y a jamais d'urgence.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et du coup, la cinquième astuce, c'est que soyez le premier au boulot et avalez le crapaud très tôt le matin, les toutes premières heures.
Ouais.
Et les gens qui viennent tôt, ils ont la tranquillité, la concentration pour pouvoir travailler vraiment avant que 29h, 20h, ils ne commencent pas à être sollicités. Et le secret pour pouvoir passer des semaines réellement productives, c'est d'être là à 6h30, s'il le faut.
Oui, bien sûr. Il faut venir avant tout le monde. Comme on dit, venez le premier. Venez le premier.
Avant le tétibateur.
Oui, bien sûr. Vous aurez les meilleurs morceaux. Les meilleurs morceaux. Alors, venez plus tôt au travail. Vous avez le temps de commencer des tâches avant que des collaborateurs viennent vous solliciter, avant que des clients viennent vous voir, vous appeler. Vous avez le temps de faire beaucoup, beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous dire, oh, c'est excellent. Et puis, je sais quoi, même, quand on commence bien une journée, toute la journée est gagnée.
Absolument. Mais si, le départ est catastrophique, c'est comme une course, hein, une course de sprint.
Ouais.
Si votre départ est catastrophique, c'est difficile après.
Exactement.
Si mentalement vous cédez surtout.
Exactement. Et justement, venez tôt au bureau, ça vous permet d'éviter les embouteillages.
Parce que... Surtout quand vous habitez à Abidjan Nord, par
ouais,
exemple,
ouais.
Et que vous venez travailler au plateau, ou bien à Abidjan
ouais.
Sud,
ouais.
Il vaut mieux quitter chez soi à 6 heures
oui.
plutôt que de passer 2 heures dans les embouteillages.
Oui, comme moi. Hein? Parce que quand vous tombez dans l'embouteillage, vous êtes perturbé, vous êtes un peu énervé pour quelqu'un qui essaie de vous dépasser d'une certaine manière, vous tombez dans le bouchon, vous dites, attention, est-ce que je serai à l'heure au travail? Voici ce que j'ai à faire, parce que je suis à faire. Venez plus tôt, vous avez le temps de vous organiser, de prendre la route avec beaucoup de paix. Et surtout, la paix, c'est très, très, très important pour le reste
Absolument.
De la journée.
Un peu de méditation, de concentration,
oh, oui.
de visualisation, de démarrage. Sa journée, un peu de prière surtout.
Ouais.
Alors, Patrice, quand on parle de manger le crapaud, il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent commencer par les petites tâches et ensuite ils attaquent les grosses. Il y a un conflit. Est-ce qu'il faut démarrer avec les grosses ou bien il faut commencer avec les toutes petites? Il paraît que la petite vient manger. Mais quand une grosse tâche vous surprend à 16 heures, ça peut être terrible.
Effectivement, parce que vous êtes épuisé mentalement.
Ah, ouais.
Oui.
Et la pression vient de la direction.
Exactement.
Les clients, les fournisseurs qui sollicitent. Donc,
ouais.
il vaut mieux se concentrer le matin pour éliminer le crapaud.
Exactement.
La vilaine ouais. tâche, il faut la terminer le matin. Quand on a terminé ça le matin, avant que les autres n'arrivent, la journée est terminée pour 11h.
Oui, justement. Et puis justement, quand les tâches plus agréables sont faites après, vous vous sentez régénéré.
Absolument.
Régénéré. Alors, le matin, en général, vous vous levez le matin, vous venez au travail, vous êtes très en forme. Commencez par les tâches les plus difficiles.
Exactement.
Une fois que vous finissez, vous vous dites, waouh, j'ai réalisé ce qui était difficile. Ce qui reste à faire est plus facile. Je le fais avec beaucoup de joie. Et puis, je suis toujours énergique et très motivé pour le reste de la journée. Alors, donc, c'est cet exercice que vous devez faire, chers amis, de commencer des tâches un peu plus difficiles le matin. Ça va vous permettre d'être très, très, très efficace pour le reste de la journée.
Absolument. Et donc, démarrer. Soit le premier à être au boulot et surtout avaler le crapaud dès les premières heures. Sixième astuce, quand on a avalé le crapaud les premières heures, on peut terminer sa journée à 11 heures.
Ah oui, bien sûr.
Et ouais. les tâches les plus difficiles sont parties.
Ouais.
On peut s'amuser maintenant.
Exactement.
On peut coacher.
Oui.
On peut communiquer.
Bien sûr.
On peut
ouais.
aller vers les gens.
Ouais.
On peut mettre la main dans la poche.
Bien
on
sûr.
Peut faire des déjeuners d'affaires.
Exactement.
Il y a des gens qui font des rushs vers les déjeuners d'affaires parce que, waouh, ils reviennent vers 15 heures, il y a tellement de tâches, ils ne partent pas avant même pas.
Ouais, ils sont obligés de rester, de sacrifier toute la journée et toute la famille après.
Parce qu'on n'est pas venu tôt
ouais.
et parce qu'on n'a pas mangé le crapaud assez tôt.
C'est ça.
Donc, s'il vous plaît, démarrez votre journée suffisamment assez tôt, comparativement à la plupart des gens. Attaquez la tâche la plus difficile et le reste de la journée, vous allez vraiment, vraiment vous régaler.
Et surtout, si vous faites des tâches difficiles après, vous risquez de procrastiner parce que vous allez vous rendre compte que c'est au moment où vous êtes très épuisé que vous vous attaquez à cette tâche. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous direz, voilà, je suis épuisé, demain, je vais faire la même chose. Et finalement, vous commencez à remettre à demain et finalement, vous ne le faites plus. Donc, c'est une bonne stratégie de commencer plus tôt les tâches plus difficiles.
Mais tu imagines, Patrice, que surtout quand entre midi et deux, Vous allez manger du foutou avec de la sauce crème, ou
Ouais,
bien bon mafé. Tellement, tellement, tellement lourd qu'effectivement, vous n'avez vraiment pas envie
Ouais, c'est
d'enchaîner la
bon,
tâche.
ouais, c'est sûr.
L'autre astuce, la septième, c'est d'utiliser la fiche d'optimisation journalière. Et c'est une fiche que vous aurez la possibilité de télécharger si vous êtes abonné à HEC Translab, donc la plateforme où vous avez droit à des outils, à des modules de formation à 10 995 francs, c'est pas gratuit, à 10 995 francs le mois. Alors donc nous aurons la possibilité de pouvoir vous montrer dans une vidéo comment utiliser la fiche d'optimisation journalière. Mais déjà, c'est une fiche que vous pouvez télécharger en dessous de ce podcast. Vous pouvez télécharger cette fiche-là. Et cette fiche prévoit sur une fiche, hein, très simple, 5 priorités pour la journée, 5 projets à faire progresser pour la journée et 5 personnes à contacter pour pouvoir accélérer la vitesse à laquelle vous réalisez vos priorités, la vitesse à laquelle vous exécutez vos projets. Pourquoi? Parce que quand on est manager, on a souvent besoin que d'autres personnes nous aident. Et le manager, il fait faire. Il passe des coups de fil pour s'assurer que les priorités qu'il a, les projets qu'il pilote vont être exécutés par ceux qui font partie de son équipe.
Exactement, exactement. Il faut le réussir. Il faut également réussir à déléguer cette tâche parce qu'on ne peut pas tout faire. Tout faire. Des personnes de collaborateurs travaillent avec vous. Sachez les motiver, sachez leur confier des tâches, sachez les aider, contrôler, les motiver, surtout, surtout, et pouvoir évaluer après.
Et pour un vrai provocateur de résultats, un vrai bousculateur professionnel de résultats, comme le dirait mon ami Michel Brou, quand vous voulez devenir un bousculateur de résultats, vous devez prendre le coup de fil, vous devez envoyer des emails. Vous connaissez, il y a des grands managers, ils envoient des emails à 4 h du matin, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des personnes précises qu'ils doivent contacter au cours d'une journée, ils doivent les bousculer pour s'assurer que, ben, tiens, à la fin de la journée, les gens vont exécuter leur tâche pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient à 4 h du matin. Quand les gens viennent, ils ouvrent leur boîte électronique à 8 h. Quel est le mec qui est là? Le mail du boss. Qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber tout, je m'en occupe. Et ça, je sais que vous êtes tombé à plusieurs reprises dans ce piège-là, mais les managers affectent des résultats à d'autres personnes. Donc, ils identifient 5 priorités pour la journée, 5 projets à faire progresser et quelles sont les 5 personnes que je dois bousculer pour m'assurer de ce que mes projets vont être exécutés. Alors, les 7 astuces que nous avons partagées avec vous sont magnifiques. Si vous voulez les utiliser, effectivement, et si vous réussissez à les utiliser, vous allez passer des semaines super et ultra productives.
Ouais.
Mais maintenant, une chose. Ne vous en voulez pas si vous ne prenez pas assez tôt le prix. La 9e astuce, Patrice, c'est de se donner le temps pour prendre le prix. On veut bien passer à une vitesse supérieure, passer des semaines plus productives, mais si on se met la pression émotionnelle de devoir absolument y arriver, alors qu'il faut du temps pour prendre le prix, ça peut être parfois destructif pour nous.
Ah, bien sûr, bien sûr. Donc il faut trouver le moyen, trouver le moyen de le faire, surtout se donner du temps. Je donne le temps nécessaire pour y arriver. Et c'est progressif, hein. Il faut le faire progressivement.
Absolument.
Et on ne peut pas faire, je veux dire, en un seul coup. Hein.
Exactement. Et vous savez, une nouvelle habitude, on a besoin parfois de jusqu'à 21 jours pour qu'une nouvelle habitude quotidienne que vous avez puisse se mettre en place. Donc, donnez-vous le temps de prendre le pli. Vous avez envie de passer à une vitesse supérieure. C'est vrai, il y a tellement de tâches à exécuter, il y a tellement d'attentes de la direction, il y a tellement d'attentes des actionnaires. Vous êtes sous pression, vous avez envie de créer votre entreprise, vous avez envie d'aller très vite. Et il n'y a rien de plus bon, il n'y a rien de meilleur. Mais attention, il faut se donner tout le temps nécessaire pour prendre le pli sans naturellement avoir des excuses. On passe maintenant à la 9e astuce, c'est de tricher le soir ou la nuit pour sauver sa journée. Il y a une chose importante, Patrice, il n'y a rien de plus beau que de piloter de façon stratégique sa journée et dire, OK, quelles sont les 5 choses essentielles que je dois faire au cours de cette journée? Quels sont les 5 niveaux de résultats auxquels je dois aboutir à la fin de cette journée? Et que il est 18 h, ou bien il est 20 h, je vois que il y a une toute petite tâche, un coup de fil que je peux passer pour faire progresser ma journée. Je n'ai pas fait l'essentiel de ce que j'avais à faire aujourd'hui. J'ai le sentiment, un sentiment de culpabilité de n'avoir pas fait ce que j'aurais pu faire et que je suis capable de faire. Si ça doit prendre 15 minutes, je sors mon ordinateur, je passe un coup de fil, je prends des notes, je fais quelque chose pour pouvoir mettre un fruit dans le panier.
Ouais,
parce que
sûr.
Comme on le verra après, la vie se manage comme des greniers. Chaque aspect de notre vie est un grenier. Et c'est notre capacité à mettre des fruits, de la récolte, dans des paniers pour aller mettre dans ces greniers qui font que, à la fin de la journée, chaque grenier est assez fourni. On va dire que notre vie est fournie, notre vie est une vie très heureuse. 10e astuce, Patrice, c'est de s'assurer de se faire payer à chaque semaine sa part. On dit souvent, Patrice, que nous surestimons ce que nous pouvons faire demain. Et nous sous-estimons ce que nous pouvons faire aujourd'hui.
Ouais.
Les gens, je dois faire, accomplir une tâche, on lui dit, demain je le ferai. Comme si demain j'avais 38 heures. Alors que demain, J'ai 24 heures comme aujourd'hui.
Bien sûr,
Et la plupart du
ouais.
temps. Et de la même manière, chaque journée doit payer sa part. Si je veux atteindre un objectif de 50 millions pour ma semaine, c'est 10 millions la journée. Si je me permets de passer la journée sans faire les 10 millions, j'aurais besoin de faire 20 millions demain. Oh, demain, je n'ai pas 48 heures. Demain, j'ai 20 heures. Donc, si je veux passer des semaines qui soient productives, je dois m'assurer absolument de ce que chaque journée paye sa part. Chaque semaine paye sa part. L'un de mes professeurs de géographie m'a appris ceci. Il ne devrait pas y avoir de surprise en fin d'année. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle dit, c'est parce que le soleil accepte que la Terre fait en face un tour autour du soleil. Chaque jour, au bout de 365 jours, le tout est bouclé. De la même manière, si je veux passer une année productive, je dois passer des semaines productives. Et si je dois passer des semaines productives, je dois passer des journées productives. Et si je dois passer des journées productives, je dois passer des heures productives. S'il n'y a pas de la productivité heure après heure, il n'y aura pas de la productivité jour après jour, il n'y aura pas de la productivité semaine après semaine, et naturellement, au bout de 50 semaines, il n'y aura pas de surprise. Exemple, si je dois faire un chiffre d'affaires de 500 millions pour la fin d'année, comptant 50 semaines, ça fait 10 millions la semaine. Ça fait 2 millions la journée. Chaque journée doit payer ces 2 millions de manière à ce que, multiplié par 5, chaque semaine paye ses 10 millions et que, multiplié par 50 semaines, nous puissions effectivement aboutir à mon objectif de 500 millions. Beaucoup de gens se disent, la semaine prochaine, on le fera. Et les semaines passent très vite. Les journées passent très vite. Et on n'aboutit pas toujours, Patrice, au type de résultat auquel on veut aboutir.
Exactement, c'est ce qui fait que beaucoup de commerciaux en fin d'année se trouvent en train de courir dans tous les sens, en courant dans tous les sens parce qu'on veut atteindre les objectifs.
Qu'on n'a pas su atteindre en début
Oui, bien
d'année.
sûr. Donc là, il faut organiser ses objectifs par mois et organiser d'abord par semestre, par trimestre, par mois et par semaine. Si vous avez une meilleure visibilité sur vos performances, vous savez comment est-ce que vous êtes en train d'évoluer, s'il faut accélérer, s'il faut relativiser, il est bon de le faire de sorte que vous puissiez vous évaluer régulièrement pour ne pas être en train de courir en fin d'année. Et parfois, on court tellement qu'on se retrouve dans la prochaine année sans avoir atteint les objectifs. Voilà.
Ah oui, merci. Et pas quelque chose de très important. Imaginez, vous quittez la maison, vous devez déposer les enfants à l'école, vous essayez de les déposer à l'école et vous tombez dans un embouteillage, vous pointez au bureau, il est pratiquement 9h15, vous avez une réunion à 10h, à peine vous regardez quelque chose et puis, tac, votre patron vous appelle, venez dans mon bureau avant la réunion, qu'est-ce que je dois dire, etc. Autant de briefer le patron, vous êtes allé à la réunion, 10h à 13h, la réunion s'est déroulée, 13h, les amis disent, allons manger. Vous allez manger, vous revenez vers 16h, et c'est là que vous vous rappelez ce que vous avez fait dans la journée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas délégué. Moi, je dis souvent, alors, pardonnez-moi, je sais que vous adorez vos enfants, mais moi, bon, j'ai la chance, c'est que mon père il était instituteur, je traversais la voie pour l'école, donc je ne marchais pas beaucoup, peut-être au collège, mais mon père, il me déposait presque jamais à l'école. Et aujourd'hui, nous sommes tenus, en tant que parents, de déposer mes enfants à l'école. C'est magnifique. Mais vous savez quoi? C'est une tâche à déléguer. C'est un plaisir de prendre les enfants à l'école. Et c'est absolument une tâche à déléguer. Si vous avez un niveau. Parce que très peu de DG déposent leurs enfants à l'école. Leur collaborateur veut le faire. Mais il faut déléguer de temps en temps. Encore une fois, chez parents, je suis parent aussi, il y a un plaisir immense à déposer ses enfants à l'école. Par contre, je pense que vous pouvez déléguer cette tâche-là. Il y a un plaisir immense à vous retrouver en train de mettre des tampons sur des enveloppes ou de signer, vérifier des factures. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ça. Et vous imaginez combien de temps ça bouge. Et les parafleurs. Quand les parafleurs arrivent chez vous, vous savez tout le temps que ça nous prend. Et on tombe dans le piège des parafleurs. Et c'est quand on a fini avec les parafleurs qu'on se rappelle les projets essentiels qu'on doit faire avancer. Qu'on se rappelle les priorités essentielles qu'on doit faire avancer. S'il y a des tâches à déléguer, je vous en prie. Oh, je pense, Patrice, donc que je me trompe. Il faut absolument les déléguer.
Absolument la déléguer. Et si vous déléguez, vous devez réussir la délégation. Il ne s'agit pas simplement de déléguer une tâche. Il faut vous assurer que vous avez fait le bon choix de la personne à qui déléguer. Vous devez également vous assurer que la personne sait comment faire. Accompagner la personne dans cela, contrôler également de temps en temps pour vous assurer que la personne fait correctement ce que vous lui demandez de faire. Et surtout, il faut déléguer. Ça vous permet de vous concentrer sur les tâches importantes et urgentes que vous devez traiter, selon votre rôle, bien entendu, et le système est plus efficace.
Ah oui, donc la 11e astuce, justement, c'est d'élaborer un plan anti-réunionniste
Bien sûr.
et de déléguer.
Bien sûr.
Parce que les réunions peuvent vous foutre la pierre.
Effectivement, il faut organiser des réunions productives.
Une heure?
Oui, productives, vraiment productives. Et vous savez, avant, tu sais, moi, j'avais, dans le temps, quand je gérais mon équipe, j'avais une équipe de plus de 60 personnes,
ouais.
Et j'avais trois chefs d'équipe qui supervisaient. Alors, on faisait des réunions chaque semaine.
Ouais.
Au début, on faisait des réunions de 3 heures de temps. Et puis, quand on monte en réunion.
Ça, là, c'est mes stations de grâce.
Oui, on... À un moment, on sort, on va prendre des goûters, on revient pour publier. Et finalement, je me suis dit.
Ça ne veut pas continuer comme
non,
ça.
Non, pas du tout. Donc là, on a commencé à travailler sur les réunions efficaces. On s'est rendu compte qu'en fait, pour réussir une réunion, il faut la préparer à l'avance.
Ah, absolument. La préparation, encore une fois.
Oui, il faut préparer les réunions à l'avance, échanger avec ses collaborateurs avant, s'assurer que les points ont été traités avant, faire le point. Et quand on vient à la réunion, on a déjà tout préparé, on vient faire un point, on se confie des tâches, sans beaucoup de débats, on va à l'essentiel. À partir de ce jour-là, commencer à faire des réunions d'une heure, parfois de moins d'une heure, pour être très, très efficace.
Absolument. Et donc, pour votre département, si vous êtes chef d'entreprise, pour votre équipe, si vous êtes responsable d'association, pour votre association, assurez-vous de ce que les réunions ne bouffent pas le temps devant être consacré aux tâches à exécuter, aux projets sur lesquels vous devez travailler. Parce que les réunions permettent de piloter les projets. Et si les réunions bouffent le temps d'exécution des projets, effectivement, on n'aura pas le temps d'exécuter et les résultats à la fin de la journée ne seront pas à la hauteur des espérances. Ouais. 12e et dernière astuce, monter en régime progressivement, mais surtout monter tellement en régime au point où vous préparez votre semaine absolument le samedi. Vous commencez par engager quelques actions si possible, vous identifiez, vous faites un inventaire des outils, des personnes à solliciter, et bien structuré, bien préparé, parce que bonne préparation égale à bonne production. Donc, vous vous préparez à tel point que le lundi, vous avez un niveau d'exécution. Le mardi, vous avez tellement un niveau d'exécution très élevé. Le mercredi, vous avez un niveau d'exécution très élevé. Vous voyez que les trois grosses tâches prévues pour la semaine ont été exécutées. Le mercredi, c'est là que la semaine devient vraiment un plaisir à vivre.
Ouais, exactement. Quand on se dit, quand on a beaucoup de choses à faire, que les choses ne sont pas encore terminées d'ici la fin de la semaine, on commence à stresser.
Absolument. On passe de mauvais week-ends.
Oui, bien sûr. Les week-ends sont très difficiles. On se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine?
Exactement.
Si vous passez un week-end agréable, être heureux, être joyeux d'avoir passé une belle semaine et passer également un bon week-end, vous devez réussir cette semaine. Lundi, mardi, mercredi, vous êtes sûr d'avoir réalisé la plupart.
90% de ceux qui mettraient la pression.
Vos tâches, faites les 90-10. 90% des tâches que vous devez réaliser les trois premiers jours. Mmh. Les autres jours sont un peu moins tendus.
Exactement.
De sorte à aller progressivement dans le week-end et profiter de votre week-end avec foison.
Absolument. Et on anticipe et on prépare la semaine suivante.
Exactement.
Alors, en tout cas, ce fut un plaisir pour nous d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous avez la possibilité alors de télécharger la fiche d'optimisation journalière, la fiche de la méthode RMPI, donc résultat, motivation pour le résultat et plan d'action intense. Mais la chose la plus intéressante, c'est que nous avons prévu des vidéos à travers lesquelles nous expliquons l'utilisation de ces fiches-là. Pour les abonnés de la plateforme HMC Translab, c'est l'atelier de la transformation pour vous, les gens qui veulent produire des niveaux de résultats extraordinaires. Nous avons prévu des masterclass. Il y a jusqu'à 7 masterclass disponibles actuellement, 5 modules au moins par masterclass. Ah. Par exemple, l'atelier de la transformation totale, c'est jusqu'à 20 modules. Et la reprogrammation mentale, c'est jusqu'à 9 heures de vidéo que vous allez avoir le plaisir de déguster, de regarder pour vous transformer. Nous avons des plans de transformation, par exemple, un plan pour élaborer votre plan d'affaires en 12 semaines. Nous avons un plan pour relooker votre leadership en 52 jours, un plan pour optimiser votre capital interne et votre confiance, capital confiance en 21 jours. Donc, autant de plans pour vous aider à passer à un autre niveau. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque semaine, nous avons des sessions de questions-réponses où, avec nos coachs, vous allez pouvoir poser des questions, on vous répond. Et pour ça, vous ne payez que 10 995 par semaine. Moins de 3 000, moins de 3 000 par semaine.
Ah oui, seulement, je dirais seulement.
Ouais, absolument. Donc, si ce que vous avez fait, c'est de cliquer, de vous abonner, vous avez la possibilité de payer par virement bancaire, automatisé. Quand vous le faites pour votre paiement, Canal Plus, c'est la même chose, 10 995 pour se transformer, pour produire davantage de résultats, passer des semaines productives. Vous avez la possibilité de payer par mobile money, quel que soit le pays où vous êtes, en RDC, on a une représentation en Guinée-Conakry, on a une représentation, on n'a qu'à voir les liens juste en bas, vous allez voir, nous sommes présents, et nous sommes présents au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Mali, nous sommes présents en Côte d'Ivoire, au Sénégal, nous sommes présents au Niger et au Gabon, Vous n'avez qu'à nous contacter et cliquer en bas, voir en quoi consiste l'offre, choisir votre formule, vous abonner aujourd'hui et vous entrez dans HEC Translab pour produire des niveaux supérieurs de résultats. En tout cas, Patrice, ce fut un plaisir.
Oui, grand plaisir. Merci, Amon.
On se retrouve très vite pour un autre numéro de nos podcasts. Au plaisir. Au revoir. On finit avec Simaro Lutumba.
Bye bye et à bientôt.